Viva la femme.
Viva.
Tu es un femme.
Moi, je ne suis pas un femme. Je suis une femme.
Femme.
Le mari est le chef de la famille.
La barbe.
Femme. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
40 ans après le MLF.
Time is now for women's rights.
Il suffit d'écouter les femmes.
Les femmes, toute une histoire. Stéphanie Duncan.
Bonjour, bienvenue dans Les Femmes, toute une histoire jusqu'à 16h. À la réalisation, Laurent Thomas, assisté de Valérie Bourg, c'est Thierry Dupin qui a choisi les disques. À la technique, Anne-Laure Cochet. J'attends vos commentaires sur notre site franceinter.fr, sur Facebook et sur Twitter, hashtag LesFemmesFI. Que vaut une femme en Inde, surtout si elle est pauvre? Le 8 novembre dernier, au Chhattisgarh, un des états les plus pauvres de l'Inde, 12 femmes sont mortes suite à des opérations de stérilisation. Le docteur Gupta, qui a été arrêté, avait ce jour-là stérilisé 80 femmes en l'espace seulement de 5 heures, dans des conditions d'hygiène probablement déplorables. Les femmes pauvres, souvent mal informées, acceptent l'opération contre une indemnisation de 600 roupies, soit une dizaine de dollars. La stérilisation de masse est depuis longtemps pratiquée en Inde et dans d'autres pays aussi pour réguler une démographie galopante. Dans les années 60, l'État indien avait mis en place une politique de stérilisation visant autant les hommes que les femmes ayant déjà 2 enfants. Mais depuis les années 80, seules les femmes sont visées par ces stérilisations massives, souvent contraintes. D'après l'organisation humanitaire Human Rights Watch, les employés de santé sont menacés de diminution de salaire s'ils ne remplissent pas leurs objectifs chiffrés. Ce qui expliquerait les stérilisations à la chaîne au moindre coût. Entre féticides, crimes pour dot, usine à bébé par GPA et stérilisation forcée, il ne fait pas toujours bon être une femme au pays d'Indira Gandhi. Isabelle Rome, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes juge, magistrate à la cour d'appel de Versailles, un métier que vous avez commencé très jeune et vous venez de publier « Dans les prisons de femmes », c'est aux éditions du Moment, préfacé par Robert Banater, un livre que vous avez écrit après une année, je pense, c'est ça, où vous êtes rendue très régulièrement à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles, un livre qui révèle la réalité donc vécue par les détenues, qui est en même temps un plaidoyer pour que la prison redevienne, dites-vous, une composante à part entière de la République. Et non seulement une verrue qu'on refuserait de regarder. C'est un métier dur que vous exercez, avec des réalités difficiles aussi. Isabelle Rome, vous n'avez rien perdu de vos convictions de jeunesse
non,
républicaine.
Sinon je n'aurais pas écrit ce livre et je n'aurais pas fait cette démarche de retourner derrière les barreaux, puisque j'ai commencé ce métier en étant juge d'application des peines donc dans les prisons de Lyon. Donc j'ai franchi cette grosse porte de la prison Saint-Joseph à 23 ans. J'y suis restée 6 ans parce que j'ai aimé cette fonction qui aussi m'a appris ce que c'était que la vie et la réalité sociale sous tous ses aspects. Et puis ensuite, les années passant, j'ai occupé différents postes et je me suis rendu compte que plus le temps passait, moins je me rendais en prison. Je crois que c'est le cas aussi d'un certain nombre de magistrats. Et j'ai voulu retourner derrière les barreaux pour mieux comprendre comment les détenus perçoivent nos décisions, de même que le personnel. Et je me suis intéressée aux femmes, étant engagée dans la cité, dans une association pour les femmes.
On en parle dans quelques minutes. Alain Faure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militant associatif, coordinateur de l'association Les Établissements Bolek, qui est située à Rennes. Et depuis 2 ans, vous intervenez à la prison pour femmes de Rennes, en collaboration avec la Ligue de l'enseignement, c'est ça?
Ouais.
Vous avez monté un projet extrêmement original et ambitieux, créé un magazine dans la prison, une revue, ça s'appelle Citadelle, fait par les détenus, pour les détenus avec l'aide de professionnels. C'est pas la première fois quand même qu'on crée un journal en prison.
Il existe des journaux en prison. Et nous, on voulait créer un vrai magazine avec des vraies exigences professionnelles. C'est-à-dire un magazine qu'on pourrait presque trouver en kiosque.
Oui, qui est beau. C'est un magazine qui est beau. On en parle tout à l'heure. Je signale aussi que votre association vient de recevoir un prix, un des prix de la fondation Raja, une fondation qui travaille pour les femmes. Christian Faure, bonjour.
Bonjour.
Samuel Doux, bonjour aussi. Vous êtes donc Christian Faure, pardon. Vous êtes le réalisateur et vous, Samuel Doux, un des scénaristes d'un film qui va être diffusé sur France 2 mercredi prochain, La Loi. C'est un excellent téléfilm qui raconte le combat de Simone Veil en novembre 1974, c'était donc il y a 40 ans. Comment elle a réussi à faire voter sa loi, un combat qui aujourd'hui on a un petit peu du mal à réaliser que ce fut vraiment un combat. Donc vous remettez en scène les trois jours, il y a une vraie tension dramatique. Dans ce film, on se rend compte que ça n'a pas été facile. Une femme hors du commun, Simone Veil, vous montrez aussi son habileté politique. Et puis vous rappelez aussi une époque pas si lointaine où des femmes, des centaines de femmes mouraient encore en France des suites d'avortements clandestins. Vous avez voulu faire ce film parce que vous pensez que cette histoire est méconnue et peut-être toujours d'actualité.
C'est un petit peu un rappel, je trouve, avec tout ce qui se passe en Europe, avec le recul un peu sur certaines lois comme ça qui ont été adoptées, où les gens pensent qu'elles sont acquises définitivement, mais elles sont fragiles, comme en Espagne, ça a été remis en question. Et je trouvais que c'était intéressant, parce que je voyais qu'il y avait une sorte de parallèle avec la loi Taubira. Je trouvais que c'était une femme qui a présenté une loi qui permet certaines libertés sans en priver aux autres personnes, et ça devient hystérique. Il y a une sorte de réaction que je n'arrive pas à comprendre, dans la mesure où ça n'oblige personne à s'avorter ou à se marier. C'est juste des femmes qui vont être moins malheureuses ou des gens qui vont être moins malheureux, et je ne comprends pas. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ça aujourd'hui, 40 ans après.
Samuel Doux, vous avez repris des dialogues de l'époque, vous avez retrouvé au plus près pour restituer justement cette vérité historique dans le scénario. Vous êtes un des scénaristes.
Oui, il faut absolument dire d'abord qu'on est trois scénaristes. J'ai écrit ce film avec Fanny Burdino et Mazarine Pinjot, sans qui, évidemment, on n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout de cette histoire qui était complexe et puis longue. On n'a pas repris réellement des dialogues. Par contre, ce qu'on a repris quasiment textuellement, ce sont les discours en fait des députés dans l'Assemblée nationale. Et donc, on n'a vraiment pas eu besoin d'en rajouter pour montrer à quel point certains propos étaient absolument ineptes et chez des députés pourtant très reconnus et encore aujourd'hui très reconnus.
On en parle donc tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Tout à l'heure aussi, on recevra Colombe Schneck, comme chaque dimanche, qui sera là pour sa chronique littéraire « Tout des héroïnes ». Dans quelques minutes, Isabelle Rome et Alain Faure pour « Les femmes en prison ». Dans « Les femmes, toute une histoire », bien sûr, sur France Inter. Juste le temps de danser sur une chanson de Pharrell Williams. Gust of Wind par Pharrell Williams et Daft Punk. En 2007, Valentine, une détenue condamnée à 24 ans de prison, raconte le choc ressenti à son arrivée au centre de détention de Joux-la-Ville.
Le bruit des clés, les portes qui claquent, les gens qui crient. On se croirait dans un autre monde. On parle plus, on se nourrit plus, on se demande ce qui nous arrive, qu'on voudrait sortir, parce que des fois on ne comprend pas. Enfin, pour ma part, je n'ai pas trop compris au début. Je ne me rendais pas compte de la gravité.
Le crime que vous aviez commis.
Les femmes le vivent plus mal que les hommes, parce qu'à la base, elles sont mères. Et d'être séparées de ses enfants, c'est ce qui est le plus dur, en fin de compte.
Est-ce que vous continuez à recevoir de la visite de l'extérieur? Parce que beaucoup de femmes, nous a-t-on raconté ici, au bout de quelques années, ne reçoivent plus de visite du tout.
C'est vrai que avec ma longueur de peine, j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai une famille qui est très proche de moi. Et je reçois la visite de mes parents une fois par mois et des enfants une fois par mois et depuis 7 ans.
Et ils passent combien de temps avec vous?
2 heures.
Quelles sont les relations entre les femmes détenues?
Bon, elles sont quand même relativement mauvaises.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas d'aide, tout le monde se tire dans les pattes. Si quelqu'un peut vous casser, il vous cassera, quoi. Et c'est malheureux, je trouve. Parce qu'on est toutes dans la même galère. Et si on pouvait toutes s'entraider les unes aux autres, ça serait mieux.
L'extrait d'un reportage réalisé pour M6 par Bernard de la Villardière, donc en 2007. Dans tout ce qu'elle exprime ici, Valentine, donc, est-ce qu'elle ressemble aux détenues que vous avez rencontrées, Isabelle Rome?
Oui, en partie, beaucoup de ressemblances. Ce que j'ai souvent constaté, c'est que ces femmes étaient vraiment en grande souffrance pendant les premiers mois de leur incarcération. Et c'est vrai que ce moment de l'arrivée en prison, c'est un moment de dépersonnalisation, on pourrait presque dire un peu de déshumanisation. Et d'ailleurs, alors je suis magistrate, donc je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui entre en prison. Mais j'ai voulu faire ce chemin de l'arrivante et j'ai demandé à une surveillante de me faire faire toutes les étapes que la femme doit accomplir lorsqu'elle est incarcérée. Et à un moment donné, c'est la surveillante elle-même qui a employé ce terme de dépersonnalisation, c'est-à-dire au moment où elle doit se défaire de tous ses effets personnels, ses bijoux, ses papiers, ses vêtements. Ensuite, on lui prête d'autres vêtements, elle doit se toucher. Et là, vraiment, elle devient un numéro d'écrou. Et ensuite, on va lui donner un gros sac dans lequel il y aura sa vaisselle, sa couverture, ses draps. Et j'ai tendance à dire qu'à ce moment-là, sa vie ne se résume qu'au contenu d'un sac.
Donc, vous venez de publier Isabelle Rome dans une prison de femmes, préfacée par Robert Banater, un livre que vous avez écrit après une année donc passée à venir régulièrement à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Je rappelle que cette prison, on en parle un peu en ce moment, puisque c'est là où Nabila, l'héroïne des émissions de télé-réalité, a été incarcérée.
Cette année m'a bouleversée, parce que même après toutes ces années de pénal, puisque je suis plutôt pénaliste, j'ai été juge d'instruction, juge des libertés de la détention, juge d'application des peines, j'ai siégé aux assises en correctionnel, j'ai encore appris sur la réalité de la prison, sur la réalité des femmes. J'ai été encore interrogée sur la place de la prison au sein de notre société.
Donc, je rappelle que les femmes représentent aujourd'hui moins de 4% des détenus en France. Elles ont les mêmes droits et les mêmes règles que les hommes en prison. Mais elles rencontrent, dites-vous, des difficultés supplémentaires. Dans la préface, Robert Banater signale les propos de Jean-Marie Delarue en 2009, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il déclarait que les femmes souffrent plus que les hommes en prison. C'est aussi votre sentiment, Isabelle Rome? Pourquoi?
Alors, je ne sais pas si elles souffrent vraiment plus. Alors, après, peut-être nous pourrons parler plus de la maternité, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai constaté qu'on n'oublie jamais qu'on est une femme quand on est en prison. D'ailleurs, je l'ai commencé en parlant d'une surveillante qui...
Oui, parce qu'elles existent aussi dans ces prisons.
Elle me disait que, par exemple, il était pour elle important d'être coquette et bien coiffée, bien maquillée pour venir en prison, parce qu'elle me disait, pour les détenus, le matin, quand j'ouvre la porte, je pense que pour elle, c'est plus agréable de voir quelqu'un de frais et de bien coiffé.
Et vous dites aussi que les détenus, en revanche, elles ont du mal justement à garder ce soin apporté à l'apparence,
oui,
au
alors
corps.
À la fois, c'est assez ambigu, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que parfois c'était comme si c'était le seul bien qui leur restait, ce corps qui parfois aussi est encombrant, qui se dérègle, qui maigrit beaucoup ou qui au contraire grossit. C'est les cheveux qui peuvent tomber, enfin les chutes de cheveux, les problèmes de peau. Mais aussi, elles ont envie de sauvegarder leur apparence. Et ça, j'ai trouvé très touchant d'ailleurs que ces femmes soient souvent maquillées, qu'elles achètent même des produits de teinture capillaire. Par exemple, notamment une femme qui était condamnée à une très longue peine. Quand je la rencontrais, je ne pouvais pas imaginer qu'elle était en prison, qu'elle avait une longue peine comme ça. Et d'ailleurs, je lui disais, mais voilà, vous êtes élégante. Elle me disait, mais à l'intérieur, je suis une loque et en fait, c'est mon corps qui est enfermé, mais le reste, je ne veux pas que ce soit enfermé. Et pour moi, c'est important de rester regardable.
Il y a des surveillantes, dites-vous dans votre livre, Isabelle Rome, qui préfèrent travailler dans des prisons de femmes, parce qu'elles disent que les femmes respectent davantage le règlement et les femmes, c'est propre et ça ne crie pas. C'est vrai que les femmes ont un comportement différent.
Malgré moi, je me suis rendu compte que ces stéréotypes, ils nous revenaient comme ça dans la figure, si on peut dire, du côté des détenus comme des surveillantes. Et l'expression, je l'ai reprise parce que les femmes, c'est propre et ça crie pas. C'est une surveillante qui me l'a rapportée parce qu'on lui a dit ça quand elle est allée faire son stage au centre pénitentiaire de Rennes et on lui avait dit ça. Et ce qui est une réalité, c'est qu'il y a quand même moins de femmes en prison que d'hommes et que le règlement est plutôt mieux respecté et qu'il y a très peu de rapports d'incidents. Par exemple, à Versailles, mais qui est une petite structure, donc il faut aussi intégrer cet élément, hein, donc pas de surpopulation, une qualité de dialogue existant entre le personnel et les détenus. Mais il n'y a presque pas de punition de quartier disciplinaire, ça veut dire qu'il n'y a presque pas de violence physique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des violences verbales.
Mmh. Valentine, et tout à l'heure qu'on a entendu, parle de, voilà, quand même d'une ambiance d'agressivité.
Ce que j'ai constaté surtout, c'est de fortes jalousies entre détenus, mais j'allais dire que le milieu fermé exacerbe, et de même que cette promiscuité, qui est quand même aussi, je pense, une des choses les plus difficiles à supporter en prison, quoi, d'avoir toujours quelqu'un 24 heures sur 24 à ses côtés.
Donc la grande différence, vous le dites, Isabelle Rome, c'est le fait justement que les détenus peuvent être des mères.
Peut-on être coupable d'un crime ou d'un délit et rester une bonne mère ? Et comment retrouver sa place une fois sortie de prison ?
Je la mérite, la prison, c'est pas la question. Je me suis jamais rebellée contre mon état. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, dans la vie. Si on savait à l'avance, ben, on ferait jamais les bêtises. Hein. Seulement, on sait pas à l'avance et on les fait.
Viens-moi, choupette.
Viens voir maman, mes chéris, oh lolo.
Ce qui fait mal au cœur, c'est de se dire qu'elle va rentrer à la crèche, je serai pas là. Elle va faire son Noël, le premier, où vraiment elle va comprendre ce que c'est des jouets. Je serai pas là, je serai jamais là, en fait.
C'était bizarre pour un enfant d'aller dans un milieu carcéral.
Moi, je lui dis seulement, écoute, ta maman a fait une bêtise, et paye sa dette.
La dernière de mes filles, elle a pas très envie de me voir. Enfin, c'est pas sa préoccupation dominante.
Non, mais moi, on va remettre les choses au clair. C'est que maman pense que pendant qu'elle était là-bas, nous, on a vécu la belle vie.
Non, c'est vrai que moi, j'ai eu une vie de rêve.
Mais maman...
J'ai nourri, logé, blanchi.
Et je te dis pas que t'as eu une vie de rêve, mais moi, j'ai pas fait de bêtises.
T'as peur que ça recommence ? Oui.
Un extrait d'un reportage réalisé pour M6 par Hélène Lamtrong en mars dernier. Dans ce que vous ont dit les détenus, Isabelle Rome, les détenus que vous avez rencontrés, est-ce que c'est ça le plus dur, être séparée de ses enfants ?
Oui, je pense que c'est la plus dure souffrance, c'est cette séparation et ce manque de nouvelles et ce manque de considération. C'est-à-dire que, bon, à Versailles, il faut préciser qu'elles n'ont pas, hein, leurs enfants.
Il n'y a pas d'espace organisé.
Il n'y a tellement pas d'espace qu'il n'y a même pas d'espace vraiment réservé pour la accueil des enfants. Il n'y a qu'une petite cellule d'une dizaine de mètres carrés dans laquelle elles peuvent rencontrer leur enfant avec quelques petits jouets en plastique pendant 45 minutes par semaine et au maximum 1h30 par mois. Et pendant 45 minutes, eh ben, il faut rester mère. C'est-à-dire il faut rassurer éventuellement son enfant, le cajoler, mais aussi le gronder ou lui remettre les choses au point. Elles ont aussi des ados de 15 ans qui peuvent faire des bêtises, etc.
Oui, mais et donc, visiblement, c'est difficile aussi de représenter l'autorité, oui, si soi-même on
tout
comment...
à fait.
On vient bien entendre cette adolescente qui dit à sa mère, mais moi, je n'ai pas fait de bêtise, c'est toi qui as fait
une
bêtise.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des difficultés. Il y a une détenue qui avait une belle expression. Elle disait, quand j'étais petite, ma mère me disait que dans la vie, il y avait deux grands D majuscules, le D de droit et le D de devoir. Et elle me disait, quand on est en prison, une mère, ces deux petits D sont tout petits. Les droits, on comprend très bien, mais les devoirs aussi, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas exercer vraiment leur autorité parentale. Un certain nombre, par exemple, demandent des bulletins scolaires de leurs enfants, aucune réponse. On considère que l'intérêt de l'enfant, c'est quelque chose qui doit être considéré comme une priorité. Eh bien, l'intérêt de l'enfant, c'est de conserver le lien avec sa mère et d'avoir une mère qui reste considérée dans son rôle de mère. Et moi, je trouve anormal, par exemple, qu'une femme, comme j'ai pu le rencontrer, soit incarcérée alors qu'elle vient d'accoucher, qu'elle a encore les fils de sa césarienne, que son petit est placé dans une pouponnière et qu'elle ne le voit pas ensuite avant 4 mois pour l'exécution d'une peine prononcée 2 ans plus tôt. Une autre aussi pour l'exécution d'une peine aussi prononcée plusieurs années auparavant, qui voit placer ses deux petites filles de 7 ans et de 9 ans, une dans un foyer, une dans une famille d'accueil, alors que voilà, elle aurait tellement souhaité au moins qu'elle puisse être réunie. Et là, je crois que vraiment, il faut que nous progressions. Donc, je propose d'ailleurs un certain nombre de solutions concrètes qui n'impliquent pas forcément des moyens énormes, mais qui impliquent simplement une mobilisation des différentes institutions pour l'intérêt de nos enfants et aussi dans le souci de réinsertion de ces femmes, parce qu'elles ont commis effectivement des crimes et des délits, elles doivent payer leur dette. D'ailleurs, elles le disent, hein, j'ai entendu dans le petit reportage que vous passiez. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi qu'elles, dans toutes celles que j'ai entendues, elles sont bien conscientes qu'elles doivent payer. Et elles pensent aussi aux victimes. Il y en a une qui me dit qu'elle voyait, par exemple, tous les matins, elle revoyait l'image d'une dame qu'elle avait agressée dans la rue. Mais la privation de liberté, ce n'est pas l'exclusion à vie. La société n'a pas intérêt à retrouver ces femmes complètement détruites, déboussolées, complètement larguées et désunies de leur famille.
Mais ce que vous dites, Isabelle Rome, est-ce que ce n'est pas vrai aussi pour les hommes? Parce que l'image d'une femme, d'une mère en prison, évidemment, ça peut être très choquant. Mais les hommes aussi, peut-être qu'ils souffrent autant de la solitude, d'être mal dans leur peau, de cette violence, et puis de ne pas voir leurs enfants aussi.
Oui, j'en ai bien conscience. C'est pour ça que je vous dis, je me méfie un peu des stéréotypes. Simplement, la réalité aussi, c'est que parmi toutes ces femmes que j'ai rencontrées, un certain nombre d'entre elles élevaient leurs enfants seules. Dans les choses que je préconise, je parle de permission de sortie dont les conditions pourraient être assouplies pour aller voir son enfant, notamment s'il a fait l'objet d'un placement. Je pense que de telles mesures pourraient être aussi appliquées aux hommes. Alors bien sûr, avec des critères très stricts, par exemple de résidence habituelle. Enfin bon, voilà. La réalité montre que souvent les femmes s'occupent seules de leurs enfants. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Mais dans l'hypothèse où, les hommes sont complètement investis aussi dans l'éducation et l'entretien de leurs enfants, bien sûr qu'il n'y a pas de discrimination à faire, bien au contraire.
J'imagine que vous proposez aussi dans ce livre, Isabelle Rome, une amélioration de la condition de vie des femmes détenues qui ne sont pas forcément mères également. On reprend dans quelques instants cette discussion sur les femmes et la prison, avec Isabelle Rome et Alain Faure.
C'est pour les
à Séville de Mina Tindall sur France Inter. Dans Les Femmes, toute une histoire, nous parlons des femmes en prison avec la juge Isabelle Rome et Alain Faure pour la revue Citadelle.
C'est un magazine qui n'est pas en vente libre. Citadelle, c'est son nom. Un trimestriel 100% féminin, réalisé pour et par des détenus de la prison des femmes de Rennes.
On parle de beauté, on parle de cuisine, on parle d'actualité sociale, tout ça un petit peu à la sauce pénitentiaire.
Accompagnée d'un journaliste et d'un graphiste pendant 3 mois, une douzaine de femmes en fin de peine a réalisé articles et illustrations de ce 36 pages. Une forme d'évasion pour celle que nous appellerons Marie, emprisonnée depuis 5 ans.
Pour moi, ça a été plus l'échange avec les autres, émettre des idées, recevoir les conseils, pouvoir interagir avec des professionnels, découvrir un petit peu ce qu'était le métier de maquettiste.
Le premier numéro de Citadelle sera distribué au centre de détention de Rennes. Sa diffusion pourrait s'élargir aux autres prisons de Bretagne. Un second numéro doit démarrer le mois prochain.
C'était en janvier 2013 sur LCI, l'annonce donc du premier numéro de Citadelle à la prison de femmes de Rennes. Alain Faure, vous pensiez à l'époque que vous en arriveriez à un numéro 6 ?
Non.
Non ?
Non, non. Parce qu'on est arrivé en septembre 2012 après avoir un peu pensé le projet quand même,
Ouais. Mais
avec un 36 pages totalement vierge. Et en proposant à des femmes d'amener leur sujet, de s'accaparer du projet, et puis de créer un magazine dont elles seraient les rédactrices. Et puis quand on a eu fini la première réunion de rédaction, parce qu'on fonctionne vraiment comme un magazine, avec une vraie réunion de rédaction, où les rédactrices amènent leur sujet, les défendent face aux autres, quand on a vu l'enthousiasme que ça avait soulevé, on était surpris et très contents.
Donc vous êtes une association, les établissements Bollex, c'était quoi l'objet de cette association initialement
L'objet, c'est toujours le même, c'est de promouvoir le graphisme, la bande dessinée, le dessin de façon décomplexée. Notre philosophie, elle vient d'expériences qu'on a eues auparavant dans la musique ou dans l'édition, puisqu'on est issu de la scène alternative qu'il y a eu en France dans les années 80, où très peu satisfaits de grosses maisons d'édition de disques ou de livres, des auteurs, des musiciens se sont pris en main et puis ont décidé d'éditer leurs propres œuvres et puis surtout aussi ont décidé de les distribuer eux-mêmes.
Et c'est vous, Alain Faure, qui avez eu l'idée de cette revue donc pour les femmes en prison, Citadelle
En fait, ça vient d'expériences qu'on avait déjà eues à la Maison d'arrêt des hommes de Rennes sur la fabrication d'un petit fanzine. Alors, un fanzine, c'est une petite publication qui est faite avec les moyens du bord et qui s'adapte parfaitement à l'univers carcéral où on ne peut pas rentrer beaucoup de matériel. Et puis, c'est un travail qu'on avait fait avec la Ligue de l'Enseignement 35, plus particulièrement avec Anne-Héloïse Botrel, qui est médiatrice culturelle
en
Ille-et-Vilaine. Puis pour en avoir rediscuté, Anne-Héloïse Botrel avait été ensuite nommée à la prison des femmes. Donc au sein de l'association, il y a Delphine Marie-Louis, qui est la graphiste du journal, qui a pensé à un magazine féminin. Le projet s'est développé à la prison des femmes de Rennes.
Comment concrètement ça se passe, Alain Faure ? Vous allez dans la prison et vous réunissez un certain nombre de femmes détenues qui sont, j'imagine, partie prenante, qui ont envie de le faire.
Anne-Héloïse avait réuni pour la première réunion des filles qui étaient impliquées dans toutes les activités culturelles qu'il y avait à la prison, des filles qui aimaient lire, qui aimaient écrire. Et puis, ça a été les premières rédactrices, et c'est elles qui ont lancé le journal.
Donc, c'est les détenus qui choisissent les sujets ?
Ouais, donc comme je vous disais, on a une réunion de rédaction qui est encadrée par Audrey Guillère, qui est journaliste. Et puis, chacune arrive avec des sujets. Donc, ça peut être des sujets de société, ça peut être des sujets sur le jardinage, ça peut être
beaucoup de sujets assez graves hein, quand même, hein, j'ai remarqué.
Les sujets assez graves, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés avec la prise de confiance qu'elles ont eue à s'exprimer et donc à passer à des sujets qui leur tenaient plus à cœur.
Je lis dans le numéro 4, hein, par exemple, un dossier sur la théorie du genre, un autre sur ce qu'on peut attendre d'un avocat, est-ce qu'on peut changer en détention, sortir de la violence conjugale, comment supporter de se faire larguer en prison. C'est des choses concrètes et pratiques, et en même temps qui vont loin, quoi. Avec des très beaux dessins, je signale aussi, qui sont faits, réalisés par les détenus.
Oui, c'était dès le projet, dès le départ, c'était qu'elles proposent les articles, qu'elles les rédigent et puis qu'elles les illustrent. Pour la rédaction des articles, justement, c'est Audrey Guillet qui encadre les ateliers parce qu'on voulait absolument qu'elles travaillent comme des journalistes, c'est-à-dire elles arrivent avec un article, mais elles ne vont pas donner leur opinion sur tel ou tel sujet. Elles vont au contraire se documenter sur ce sujet. On s'aide aussi en faisant entrer des intervenants extérieurs. Si on a un sujet sur la loi Taubira, par exemple, dans le prochain numéro qui sort, il y a un spécialiste qui est venu parler de la loi Taubira. On doit pouvoir justifier qu'ils sont documentés et puis que justement ils sont pertinents, quoi.
Isabelle Rome, j'imagine que vous êtes intéressée par ce genre d'initiative, donc vous qui déplorez aussi, dans votre livre, vous le signalez, l'absence de vie culturelle, et puis là, c'est une expérience de groupe aussi, j'imagine, qui est très enrichissante pour les détenus.
Isabelle Rome. Je trouve ça tout à fait passionnant, et je pense qu'un travail comme celui-ci, je pense que c'est vraiment une aide à la liberté qu'elles peuvent aussi retrouver, même dans leur tête, parfois, parce que souvent, j'ai constaté qu'un certain nombre de femmes qui étaient dans des dépendances avant d'entrer en prison, des toxicomanes ou des femmes qui avaient des problèmes d'alcool ou même des conduites addictives, par exemple dans le vol, eh bien, il fallait aussi se sortir de toutes ces dépendances et avoir d'autres représentations, d'autres modèles. Et je pense que cet investissement dans la réflexion, dans l'écriture, je pense que c'est un des meilleurs moyens aussi d'arriver à cette liberté. Et puis, de manière plus matérielle, je pense que c'est un excellent moteur aussi de
pour
réinsertion,
la réinsertion,
hein,
oui.
Bien sûr.
Alain Faure, vous avez des bons retours.
En fait, nous, on s'est rendu compte qu'on était bien avant. On ne pensait pas du tout à d'insertion ou de la réinsertion parce qu'on se retrouvait avec des femmes qui étaient arrivées là cassées, qui avaient eu souvent des parcours de vie assez chaotiques et puis qui avaient avant tout envie de, enfin, et besoin de reprendre confiance en elles. Parce qu'on vient de cette culture-là, du do-it-yourself, c'est-à-dire de faire soi-même, et de partir du principe que tout le monde est capable de produire un texte, un dessin. La base de ça, c'était ça, c'était les valoriser et justement leur redonner confiance.
Oui, Isabelle Rome, très rapidement.
Je trouve que c'est très important, cette idée de revaloriser, parce que justement, quand on parle des femmes en prison, c'est une travailleuse sociale qui m'a dit ça, les femmes, contrairement parfois, certains hommes ne sont jamais valorisés par un passage en prison. C'est-à-dire que parfois, on le sait, je veux dire, il y a des jeunes garçons qui retournent un peu comme des caïds dans leur quartier quand ils ont fait un passage en prison. Je pense qu'on a très très peu d'exemples de femmes qui retournent fièrement dans la cité après un passage en prison. Je pense que souvent, elles sont très dévalorisées, très honteuse, et je comprends très bien la démarche que vous décrivez dans ce sens de revaloriser aussi la personne.
Merci beaucoup Isabelle Rome. Donc je rappelle le titre de votre livre, Dans une prison de femmes, une juge en immersion, publié aux éditions du Moment, et donc cette revue très intéressante, Citadelle, le lien sera disponible sur le site de l'émission.
Les femmes, toute une histoire.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
Sur France Inter.
La parole est à Madame le ministre de la Santé.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps.
C'était le 26 novembre 1974. Simone Veil, donc ministre de la Santé, venait à l'Assemblée nationale présenter le texte de sa loi sur l'IVG, une assemblée presque entièrement composée d'hommes. Et il y a 40 ans, donc presque jour pour jour. Vous vous en souvenez, vous, Christian Faure ? Vous étiez,
Un tout petit
gamin.
Peu. Oui, ouais. Je me souviens surtout, juste, il y avait eu le vote de Giscard. Moi, j'étais en fac et les étudiants avaient Giscard à la barre, ce qui marchait très bien. Donc, c'est 6 mois après. Donc, je m'en souviens. J'étais en plus à cette époque étudiant en médecine. Ah. Donc, c'est vrai que je me souviens un peu de tout ça.
Voilà. Oui. Samuel Doux, vous étiez un peu jeune peut-être.
Oui, moi j'avais 3 mois.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc Christian Faure, je rappelle, vous êtes le réalisateur d'une fiction, La Loi, qui raconte les 3 jours qui ont changé la vie des femmes, du moins la vie des femmes en France, et qui va être diffusée mercredi prochain sur France 2 à 20h50, dans le rôle de Simone Veil, Emmanuel De Vos, remarquable, mais tous les acteurs sont très bons. Et le film restitue, je trouve, de manière très juste, juste le climat très tendu de cette époque, le vote de la loi sur l'IVG, avec tous les protagonistes politiques qui reviennent, Jacques Chirac, Françoise Giroud, Michel Poniatowski, Marie-France Garraud, Lucien Neuwirth et j'en passe. Mais la force du film, c'est que vous ne montrez pas que les coulisses donc, de l'Assemblée nationale, je trouve, mais c'est vous montrez une autre histoire en même temps, celle d'une jeune journaliste de l'Express qui va enquêter sur le terrain. C'était important pour vous justement de montrer ces deux réalités, l'aspect politique autour de Simone Veil à l'Assemblée nationale, ces 3 jours, et en même temps ce qui se passe ailleurs, dehors.
Oui, c'est intéressant de montrer la rue, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'un film de couloir, d'intrigue, de manipulation politique. Et c'est intéressant, à travers la jeune journaliste, de voir pour qui était cette loi, quelles étaient les femmes qui l'attendaient, ce qu'elles subissaient. Et c'est pour ça qu'il y a ce démarrage dans cet hôpital où c'était les fameux lundis rouges, où les retours de week-end, beaucoup de femmes allaient à l'hôpital en urgence parce qu'elles s'étaient mutilées durant le week-end pour s'avorter elles-mêmes. Et c'est ce qu'on avait appelé les lundis rouges. Donc à travers cette journaliste, on voit exactement qui attend cette loi et ce que subissent les femmes tant que cette loi n'est pas votée.
Est-ce que cette journaliste a vraiment existé ou c'est un personnage que vous avez inventé ?
Je crois que c'est un personnage qui a été inventé. En fait, on peut demander à monsieur
Samuel Doux. C'est vous qui avez inventé ce personnage de femme journaliste, journaliste.
C'est nous scénaristes qui avons inventé ce personnage-là en le remettant à l'intérieur d'un journal qui ressemble beaucoup à l'Express, qui est même clairement ce journal-là. Donc on a cherché à faire frotter un peu la fiction et la réalité au travers de ce personnage, ouais.
Je vous propose d'écouter une scène, justement, vous l'évoquiez, Christian Faure, le début du film. La journaliste se rend de manière clandestine, oui, dans un service, dans un hôpital, où sont alitées les femmes qui ont pratiqué clandestinement un avortement qui a mal tourné.
C'est comme ça tous les lundis.
Comment t'as fait pour me cacher ça ?
C'était trop dangereux pour les médecins et pour elle aussi.
Il y a déjà eu des arrestations ?
Oui, de femmes. Maintenant, on espère beaucoup de la loi. Et puis, elles utilisent n'importe quoi. Des aiguilles à tricoter, du fil de fer et même des couteaux. C'est mon amie, la journaliste, je vous en ai parlé. Elle peut prendre des photos.
Allez-y. Bonsoir. Vous vous appelez comment ?
Chantal.
Qui a procédé à l'avortement ?
Mais personne. C'est moi.
Où est-ce que vous avez fait ça ?
Chez mes parents. Dans ma chambre.
Comment vous êtes venue ici ?
Je saignais beaucoup, ça n'arrêtait pas. J'étais obligée d'appeler ma mère. Elle a fait venir le SAMU.
Elle ne vous a pas accompagnée ?
Elle m'a dit que j'étais majeure et qu'elle en avait marre de mes conneries.
Bon, Diane, il faut partir, je vais me faire virer, ils vont prendre tes pellicules.
Chantal, si on publie, vous savez ce que vous risquez.
Maman, ça m'est égal.
C'était important, Christian Faure, de montrer ça, justement. C'est une réalité qu'on a un peu oubliée, que ces femmes, non seulement elles étaient en train de mourir dans l'hôpital, mais en même temps, elles risquaient de la prison.
Oui, elles risquaient la prison à cause d'une loi, je crois, de 1920,
oui, c'est
qui
ça.
Était après la Première Guerre mondiale. Comme il y avait eu un problème de dénatalité, les femmes étaient des criminelles si elles avortaient. C'était pour relancer ça. C'est des lois comme ça qui traînent, qui existent à travers tout le siècle, et il y en a plusieurs qui ne sont plus du tout adaptées à une réalité sociale ou économique, mais elles sont toujours là, et les gens peuvent les brandir à tout moment, s'ils en ont envie, quand ça les arrange.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 jours ?
C'est quelque chose d'historique. Oui, et en même temps, bon, évidemment, c'est un scénario, donc c'est un peu ramassé, parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées sur 15 jours. Par exemple, l'ordre des médecins qui s'est opposé à la loi, ça a été fait une semaine avant les débats.
Oui, peu importe,
mais c'était intéressant de ramener, de faire une sorte de thriller politique pour intéresser les gens, et que ce soit, et faire surtout oublier l'issue du vote. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut qu'à un moment donné, on sait que le vote, la loi est passée, mais c'est intéressant de faire croire qu'elle n'allait pas passer.
Oui, et puis on se rend compte que ça aurait pu ne pas se faire aussi facilement, parce que c'est quand même grâce à la personnalité de Simone Veil,
absolument,
son habileté politique. C'est quelque chose que vous montrez dans votre film. On connaît Simone Veil, une personnalité très humaine, très aimée, etc. Mais il y a aussi une femme politique qu'on découvre.
Très ferme. Oui, très ferme.
Et fine, qui sait jouer.
Qui était très habile. Parce que surtout, elle avait surtout à faire, ce qui est quand même incroyable. C'est une loi proposée par sa majorité et qui est ses principaux ennemis et les plus virulents ont été les gens de sa propre majorité, qui sont allés à la traiter quasiment de nazis, et c'était que des gens de droite. Ça veut dire, sans la gauche, la loi ne passait pas. Et elle devait se battre contre sa propre majorité pour imposer cette loi. C'est ça qui était intéressant.
La voici, justement, Simone Veil, interprétée par Emmanuel De Vos, avec Laurent Deutsch, dans celui de son directeur de cabinet, Dominique Levert.
Si nous réussissons à faire passer cette loi, vous pouvez être sûr que Giscard réclamera la victoire.
Et si nous échouons ?
Alors nous n'aurons plus qu'à partir.
J'aime votre enthousiasme.
Il faut être pragmatique. Giscard ne donnera pas de consigne à nos députés.
Et Giraud qui nous fait perdre des voix à chacune de ces saillies féministes.
En définitive, nous ne pouvons compter que sur la gauche.
Oui, mais nous, très bien compris. Quand on voit leur exigence sur le remboursement et l'obligation des médecins à pratiquer l'IVG...
L'avenir est donc radieux. Pour le moment, c'est la défaite assurée.
Une chose après l'autre. Commençons par éliminer Giraud.
Donc on découvre que Françoise Giroud, qui est alors secrétaire d'État à la condition féminine, n'est pas du tout une amie de Simone Veil.
Non, mais en même temps, c'est une amie dangereuse. C'est-à-dire que...
Est-elle dangereuse, justement?
Mais parce qu'elle défend la liberté du corps. Les femmes doivent choisir si elles avortent ou pas. Et,
Le droit de disposer de son corps, comme on
voilà,
disait.
Et Simone Veil voulait absolument qu'on le place sur un point de vue de santé publique et sur ces femmes qui mouraient, et pas sur la liberté de disposer de son corps.
Par Simone Veil ou par raison politique pour pouvoir justement faire voter cette loi par le maximum de députés? Quelle est sa démarche, en fait, à Simone Veil, à ce moment-là?
Justement, ramener tout le sens et tous les gens qui étaient un peu frileux et qui ne voulaient pas entendre parler, justement, de ce choix à disposer de son corps, parce que ça les effrayait.
Et donc, pendant ces trois jours, on voit elle, et puis surtout son conseiller, essayer de ramener les autres députés, enfin, tous les gens qui sont dans ce débat. Il y a l'Église aussi qui intervient. La voit, Simone Veil, parler avec un prélat. Il faut aussi adhérer l'ordre des médecins. Et puis de l'autre côté, il y a la gauche qui pousse justement pour que l'IVG puisse être obligatoire pour les médecins,
ce
que l'ordre des médecins refuse, et remboursé par la sécurité sociale.
Elle a dû céder là-dessus, mais elle a fait au dernier moment, ce qui a un peu obligé la gauche à ne pas trop réfléchir et à quand même soutenir la loi. Et c'est vrai, elle dit dans son livre, le seul livre qu'elle a écrit, que l'Église à cette époque-là était plus au fait des problèmes de société. On était en 74, donc c'est 6 ans après 68. Moi, je me souviens des orchestres de rock dans les églises pour ramener des fidèles. Et il y avait une sorte de liberté. Et l'Église était moins regardante sur les libertés individuelles, en tous les cas, sur l'avortement et tout ça.
Oui,
et
finalement, l'Église a laissé passer.
Oui, l'Église a fait silence. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu d'hystérie comme pour le mariage pour tous, ça c'est sûr.
Et vous pensez que la personnalité de Simone Veil a joué beaucoup?
Oui, énormément. Parce que justement, elle était... les gens la respectaient énormément. Je ne suis pas sûr que Christiane Taubira aurait été la bonne personne, comme je ne suis pas sûr que Veil aurait fait passer la loi à la place de Taubira. Je veux dire, c'est vraiment deux époques et deux moments différents et deux personnalités très, très différentes.
Ce que vous montrez aussi, Samuel Doux, enfin, je pense que vous êtes inspiré évidemment de faits réels, c'est bien le climat aussi d'insultes qu'a subi Simone Veil, les lettres d'insultes, les inscriptions nazies qui ont été faites sur son immeuble, justement, juste avant le vote de la loi.
Oui, ce qui était assez effrayant en se plongeant dans cette époque-là, c'était de voir à quel point, en réalité, les histoires du passé n'étaient pas réglées et comment elles sont revenues à la vitesse de la lumière pour s'opposer à quelque chose qui semblait n'avoir rien à voir avec ce qui se passait dans l'Assemblée. Les parallèles entre les fours crématoires et les hôpitaux qui allaient s'apprêter à faire des IVG sont arrivés dès le deuxième jour des débats. Ça a été assez terrible. Ça a été la force de Simone Veil aussi, justement, de se replacer toujours en dehors de l'affect, en dehors de de la pulsion. C'est ça aussi qui l'a différenciée de Giroux, c'est-à-dire qu'elle avait la sensation que en fait, Giroux plaçait les choses, pour faire court et un peu caricatural, du côté de l'hystérie, et que ça allait,
oui,
braquer, ça allait braquer les hommes. Oui. En fait. Elle avait compris, oui, ça. En fait. Il fallait pour elle qu'elle s'oppose du point de vue de la pensée et du point de vue de la politique. Et elle devait s'opposer aux hommes seulement sur le plan politique. Et c'est pour ça qu'elle a fait ce choix qui... certainement a été aussi une question de conviction de ne parler finalement que de santé publique et certainement pas de droits des femmes à disposer de leur corps.
Il fallait faire adhérer tous ces hommes, tous ces députés autour de ce projet.
Absolument. Et c'était sur le domaine politique que c'était possible.
Merci beaucoup. Donc La Loi, un très beau film que je conseille vivement, qui sera diffusé mercredi prochain sur France 2 à 20h50. Une heure de grande écoute, c'est suffisamment rare pour le signaler. Merci Christian Faure et merci Samuel Doux. Dans un instant, la chronique de Colombe Schneck.
Hey Andy, hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy, quoi. Oh, dis-moi oui.
Andy d'Erita Mitsuko, c'était en 1986.
Vive les héroïnes.
We can never go back to Mandalay again. That much is certain.
Mon charme n'agit plus. S'userait-il? Je vieillis.
Mais les faits ne vieillissent pas.
C'est vrai, je les oubliais.
Sur France Inter.
Colombe Schneck, bonjour. Quelle héroïne cette semaine.
C'est l'héroïne d'un roman qui s'appelle L'Audience de Oriane Jeancourt-Galignani, publié chez Albin Michel. C'est drôle parce que quand j'ai écrit le nom du titre et de l'auteur, j'ai cherché le traducteur. Je pensais que c'était un roman américain. Mais...
ouais. C'est une héroïne un peu sulfureuse. Hein.
Non, elle n'est pas si sulfureuse, mais c'est justement la peur du sexe, du désir d'une femme qui est au centre de ce roman. Combien une femme qui désire, qui peut tromper son mari, qui montre son désir, fait peur.
Vous pouvez redonner le titre du livre ?
L'Audience, ouais, de Oriane Jeancourt-Galignani. Elle s'est inspirée de deux choses. D'abord d'un roman d'il y a 150 ans, un roman américain de Nathaniel Hawthorne, La lettre écarlate.
Ah ouais, chef-d'œuvre.
qui est le premier grand roman moderne américain où une femme est clouée au pilori par son village parce qu'elle a trompé son mari et elle doit porter sur elle la lettre A brodée en rouge, A comme adultère.
La scène n'était pas exempte de cette horreur profonde et, comme religieuse, que le spectacle de la culpabilité et de la honte d'un des leurs éveille chez les hommes avant que la société devienne assez corrompue pour que pareil spectacle fasse sourire au lieu de frémir.
Un texte donc lu par Hervé Pochon, on le remercie au passage.
Oui, c'est donc il lit un extrait de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Et ce qui est intéressant, c'est que Oriane Jeancourt-Galignani montre que 150 ans, 1000 ans après, rien n'a changé pour les femmes. C'est-à-dire que leur désir fait toujours aussi peur. Elle s'est inspirée d'un fait réel qui a eu lieu au Texas en 2011 où une jeune enseignante de 28 ans a eu des relations sexuelles avec 4 étudiants majeurs. Un des étudiants avait diffusé sur Internet une vidéo de leurs ébats. Elle a été condamnée, cette jeune femme, mère de famille, à 5 ans de prison.
Quelle était la cause ?
5 ans de prison parce qu'au Texas, une loi interdit d'avoir des relations amoureuses, sexuelles, entre professeurs et enseignants, quel que soit leur âge. Les 4 garçons avaient 18 ans, 19 ans. Elle avait 28 ans. Donc c'est une histoire terrible. Elle se retrouve en prison parce qu'elle trompe son mari, en fait. Elle montre qu'effectivement, 150 ans après, 1000 ans après, rien n'a changé. Donc, dans ce roman, Déborah Onus a une trentaine d'années. Elle est mariée avec un soldat parti en Afghanistan. Elle a 3 enfants. Et elle est actuellement dans un collège d'une petite ville de Texas. Et son crime, c'est d'avoir couché avec 4 garçons consentants, majeurs et ravis d'être là et qu'ils le disent. Elle raconte 4 jours d'audience comme 4 jours de scène d'un film où elle se tait, où elle est clouée au pilori, où elle est humiliée, où on entend les ricanements de la scène, des gens autour d'elle, ils veulent la faire plier, qu'elle avoue sa culpabilité et sa honte, elle refuse de le faire. Nous sommes aux États-Unis en 2011, mais encore une fois, on pourrait être au Moyen-Âge. Le récit est implacable, il n'y a pas d'excuse possible. La procureure dit... Une femme qui a un amant, c'est une femme qui cherche une nouvelle proie pour nourrir une faim sexuelle inassouvie. Et cette femme sera condamnée, non pas au bûcher, mais à 5 ans de prison. Donc ça s'appelle L'Audience de Oriane Jeancourt-Galignani, publié chez Albin Michel.
Merci beaucoup, Colomb Schneck. Je tiens à signaler la diffusion vendredi prochain d'un documentaire télé que vous avez réalisé, Colombe, sur un sujet encore tabou, les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Un très bon documentaire, ça s'appelle « Femmes sans enfants, femmes suspectes », qui sera donc diffusé vendredi prochain sur Arte. Et nous aurons bien sûr l'occasion dans cette émission de revenir sur ce sujet. Alain Le Gouguec, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est votre invité dans votre émission tout à l'heure, qui commence juste après les infos? Une émission dont j'adore le titre.
116 rue Albert-Londres. Elle sourit parce qu'elle s'est plantée 2 fois au cours de la dernière
semaine. Je me suis plantée, j'ai dit 115 au lieu de 116.
C'est le 116, maintenant... c'est comme 116 avenue du président Kennedy, tout simplement, et Albert-Londres. Oui. Bah, c'est le père du grand reportage en France. L'invité sera une femme, oui. Ala Kodmani, qui est une journaliste franco-syrienne indépendante.
Ah, formidable
journaliste, exactement, dont le terrain d'investigation est la Syrie. Elle s'y rend assez régulièrement. Elle porte le voile pour essayer de passer inaperçue. Elle parle évidemment couramment l'arabe et elle fait un excellent travail que l'on peut lire généralement dans les pages de Libération ou de l'Express.
On vous écoute dans un instant, Alain Le Gouguec. Voilà, les femmes, toute une histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires sur les réseaux sociaux, hashtag lesfemmesfi, et bien sûr sur notre site franceinter.fr, où vous retrouverez aussi, comme chaque dimanche, l'excellent dessin de Nina Lehec. La semaine prochaine, je recevrai 2 femmes exceptionnelles, la Camerounaise Annie Michel Salanzi et Laure Nadine Boukongou du Burkina Faso, qui se battent aujourd'hui dans leur pays pour lutter contre le sida et militent notamment pour le préservatif féminin comme moyen de prévention. Et nous parlerons aussi d'une femme exceptionnelle, Susan Travers, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale qui reste encore aujourd'hui la seule femme admise à la Légion étrangère. Et oui, à dimanche prochain, 15h.